at 5 o'clock. I try to wake up from my bed. I'm tired but I'm going through. I'm fine, I know the dream come true. I love you so, I can let you go. Let you go 5 miles away. You make me smile, you make me smile. I love you so, I can let you go. Let you go 5 miles away. You make me smile, you make me smile. At 5 o'clock, I try to wake up from my bed. I'm tired but I'm going through. I'm fine, I know the dream come true. Keep faith in you. At 5 o'clock, I try to wake up from my bed. I'm tired but I'm going through. I'm fine, I know the dream come true. Keep faith in you. I love you so, I wanna let you know. Let you know 5 times a day. You make me smile, you make me smile. I love you so, I won't let you know. Let you know 5 times a day. You make me smile, you make me smile. At 5 o'clock, I try to wake up from my bed. I'm tired but I'm going through. I'm fine, I know the dream come true. Keep faith in you. At 5 o'clock, I try to wake up from my bed. I'm tired but I'm going through. I'm fine, I know the dream come true.
Oxy Radio, 100% jeune, 100% libre.
Et bonsoir à tous et bienvenue en direct du centre d'animation Saint-Pierre à Bordeaux. Comme chaque deuxième mardi de chaque mois, vous êtes en direct de Bordeaux sur les ondes Oxy Radio, mais aussi sur radio.girol.org et en podcast ensuite sur Révolution de Sound Record. Alors ce soir, on a deux invités de choix. On a deux personnes d'Aquilonnet qui sont venues. Bonsoir Alexandre et bonsoir Samuel. Ah, on n'a pas de retour sur... J'ai pas de retour pour Samuel et... Il faut allumer le micro. Ah là, les impairs techniques du direct. Bonsoir, donc on va parler avec vous, bien sûr, de choses qui ont attrait à Honnête. Vous allez pouvoir participer à nos petits débats ce soir. Alors, au programme de ce soir, on va avoir un appel au secours d'Isa. Ensuite, on a Thomas qui nous a encore préparé un petit sujet musique libre. Vous allez entendre des musiques aujourd'hui de Ant Nelly qui vont, je dirais, découper chacun des petits sujets de la radio. Nous allons vous parler de la neutralité du net remise en question par ceux qui pourtant nous avaient promis de la préserver au Parlement européen. Nous allons vous parler forcément de Aquilonnet, fournisseur d'accès associatif sur Bordeaux et sa région. Et membre de la Fédération nationale des fournisseurs d'accès à Internet associatif, la FFDN. Et nous allons vous présenter l'Open Bidouille Camp, un petit événement do it yourself, libre et tout ça, auquel nous allons bien évidemment participer. Voilà, je laisse pour l'instant la parole à Isa qui a un petit truc à nous, une petite demande.
Oui, voilà. Donc, j'en avais peut-être parlé dans les épisodes précédents. Hein, donc, le site de Dogmazic, qui est géré par l'association Musique Libre, est en totale reconstruction. L'ancienne archive est de nouveau sur le net, mais elle est complètement bloquée. C'est-à-dire que c'est juste les anciens morceaux qui sont accessibles. Et par contre, le nouveau site est en phase alpha. Donc, il est vraiment en construction. Et le seul, enfin, il y a actuellement une personne qui travaille à fond dessus. C'est Tumult, qui est membre du bureau et qui est à fond dessus. Mais là, il bute sur un gros bug, un bug d'encodage qui est lié à Python. Alors moi, j'y connais rien, je ne suis pas très douée sur tout ce qui est programmation, tout ça. Mais je fais un appel au secours à tous ceux qui connaissent Python, GStreamer et compagnie. Oui, notamment Mathieu à ma droite, alias Rycor. Pour voir s'ils peuvent pas donner un petit coup de main. Le bug est sur le GitHub de Musique Libre, sous la rubrique Dogma Goblin, puisqu'en fait le site est développé à partir de Media Goblin, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est le bug numéro 88, je connais son numéro. Voilà, il y a tout un tas d'erreurs, j'y comprends rien, mais bon, voilà, Tumult n'arrive pas à trouver pourquoi. Il y a des bugs d'encodage, c'est-à-dire qu'il y a certains morceaux qui passent l'encodage, d'autres qui ne le passent pas. C'est-à-dire que le but, c'est de pouvoir encoder du FLAC, du OGG, du MP3 pour obtenir du WebM à l'arrivée, qui est le format qui sera lu sur le site. Voilà. Donc, help, help, help. Si vous y connaissez un petit peu ou un petit peu beaucoup en Python et autres GStreamer et compagnie, si vous pouvez aller jeter un œil et essayer de débloquer le truc, c'est très important parce que à suivre, il y a une campagne de dons pour pouvoir booster tout ça pour que Dogmazic puisse revivre, qu'on puisse avoir un site qui permet d'héberger du FLAC, du MP3, du OGG pour tous ceux qui font de la musique libre.
Merci beaucoup Isa. Donc c'était l'appel de l'association Musique Libre pour Dogmazic, un site quand même référence dans le domaine de la musique libre. Justement, sans transition, comme diraient certains journalistes télévisuels, nous allons passer à la rubrique musique. Nous allons vous présenter un artiste et c'est encore Thomas qui s'y colle, si on lui donne un micro. Bonsoir Thomas.
Bonsoir à tous.
Maintenant, tu vas devenir le référent musique libre. Tu vas presque piquer la place à Isa.
On va dire, je vais aider
Isa.
Il
écoute, tout le monde peut être référent musique libre à partir du moment où tu écoutes de la musique libre. C'est bien.
Alors, voilà. Qu'est-ce que tu nous as trouvé ce soir ?
Alors, ce soir, j'ai ressorti de mes cartons un album qui date de 2008 d'un artiste anglais qui s'appelle Ant Nelly, qui est d'Angleterre du côté de Twickenham. Cet album, j'ai découvert sur Jamendo il y a très longtemps. Je l'avais gardé dans mes favoris. Je ressors et en plus, il est toujours en Creative Commons, toujours diffusé. Et l'artiste a plaisir à le voir diffusé sur des radios, des sites web, etc. Il est sous licence Creative Commons. Alors, je vous raconte un petit peu. L'histoire de l'artiste, il a commencé à faire de la musique sur des vieilles cassettes enregistreurs chez son père. Et il est passé au fur et à mesure sur la création totalement digitale. Et aujourd'hui, il travaille que sur ordinateur. L'album que je vais vous faire découvrir, son nom c'est No Fit for Human Consumption, impropre à la consommation humaine. Il est assez éclectique, vous allez le voir. Je vous conseille d'écouter entièrement. Ses morceaux sont assez différents. Il y a du scratch, il y a un peu d'influence oldies dedans. Il y a des moments très posés, il y a du chant. Il est vraiment original il me semble 10 morceaux de l'album sont vraiment vraiment différents. Pour raconter un petit peu l'histoire d'Ant Nelly, il a participé aujourd'hui à pas mal de bandes son de séries, notamment Boston Legal, Samantha Who, Six Feet Under. Et pas mal d'autres, notamment par exemple The Fairy Tailed Tree qui est assez récent.
En fait, c'est un artiste qui est déjà relativement connu, enfin, voilà. Implanté dans un milieu.
Exactement. Il fait partie du groupe d'ailleurs Subsunk, je prononce mal, j'ai pas un bon accent. Là, c'est un album qu'il a fait avec son groupe, donc il n'est pas sous licence libre. Son vraiment seul album qu'il a fait sous licence libre, son album solo, c'est celui que vous allez écouter maintenant. Je vous propose d'écouter la musique Scratch Redux.
La radio libre.
are listening to the fucking Radio Girol.
Girol Radio Station. Et vous voilà de retour en direct du centre d'animation Saint-Pierre. Alors justement, on va un peu ouvrir le débat sur la neutralité du net chez Girol, même si vous connaissez sûrement nos positions. Mais si vous voulez discuter avec nous en direct, vous pouvez le faire sur notre canal IRC. Pour les plus nerds d'entre vous, c'est irc.freenode.net, le salon d'IS Girol. Sinon, vous allez directement sur la page radio.girol.org et vous avez une petite application dessus qui vous permet de chatter en direct. Vous avez juste à choisir un pseudo, valider, et hop, vous êtes en direct avec nous sur le chat Girol. Alors, on revient vers toi, Thomas, encore une fois, qui va piquer le micro un petit peu. Rebonsoir, Thomas. Donc toi, tu as choisi ce soir de nous parler de la Commission européenne et de la neutralité du net.
Exactement. C'est vrai que c'est un sujet qui revient assez régulièrement, et aujourd'hui, il y a un événement assez important. C'est le 18 mars, il va y avoir passé en Commission européenne une loi relative à la neutralité du net. Alors forcément, la quadrature du net est sur l'affaire et essaye de protéger cette neutralité du net. Elle a été plusieurs fois remise en question et aujourd'hui, elle est à nouveau remise en question par cette loi, notamment par certains députés qui aimeraient bien la contourner dans certains cas. Alors, je cherche mon sujet. J'ai pris des notes tout à l'heure.
Donc c'est un texte qui a déjà été discuté, débattu et débattu surtout encore de façon relativement opaque, sans vraiment participation des publics ou même de certains groupes citoyens comme la Quadrature du Net.
C'est ça, exactement. C'est un peu discuté en toujours les mêmes acteurs avec pas mal de lobbies derrière qui ne sont pas forcément du côté de la neutralité du net, des gros acteurs ou des gros fournisseurs d'accès Internet où c'est dans leurs intérêts de favoriser certains contenus à l'inverse de d'autres. Je vous sors une citation là sur un article, la neutralité du net, c'est une histoire de tuyaux et de gros sous. Effectivement, c'est un peu ça. Pour expliquer un petit peu ce que c'est que la neutralité du net, c'est, si on se met dans la peau d'un Internet lambda qui va sur YouTube, par exemple, il veut pouvoir accéder à ses contenus, peu importe chez quel opérateur il est, que ce soit chez Free, Orange, etc. Chaque contenu qui va chez l'internaute devrait être à même égalité au niveau de la distribution de ce contenu. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. Enfin, on va dire qu'il n'y a pas encore trop de problèmes, mais c'est pas tout à fait le cas. On peut prendre l'exemple, par exemple, d'un opérateur au Canada, il me semble, vis-à-vis de Netflix, qui est une grosse plateforme de diffusion de vidéos. L'opérateur s'appelle Comscore, et ils ont réussi à passer un contrat entre Netflix et Comscore pour favoriser les flux de Netflix, c'est cet opérateur. Et le problème de cette neutralité net remise en question, c'est que l'internaute aura à payer pour avoir un contenu de qualité en direction de certains sites, certains services. Par exemple, on peut prendre un gamer, par exemple, quelqu'un qui télécharge beaucoup, il devra payer plus cher pour pouvoir avoir un meilleur ping, par exemple, avoir un plus gros débit, avoir une plus grande quantité de données téléchargeables. C'est de se dire, on remet en question un peu l'Internet égalitaire pour tous, et en fonction de l'usage que vous faites d'Internet, vous ne payerez pas le même prix, vous n'aurez pas la même qualité de réseau. Un peu, on peut dire un peu ce qu'on a aujourd'hui un peu sur le mobile, c'est-à-dire vous payez plus cher, vous avez un meilleur fair use, vous payez plus cher, vous avez la 4G par exemple, etc. Alors, si je prends les arguments de l'autre côté, en faveur d'être contre cette neutralité du net, parce qu'il y a pas mal d'arguments, il y a quelques bons arguments, entre guillemets, on peut en débattre, mais c'est de se dire, par exemple, de favoriser certains accès, par exemple, pour de la chirurgie à distance, de favoriser ces débits-là. Par exemple, favoriser, en disant, Madame Michu qui accède à sa connexion Internet, elle n'a pas forcément d'avoir besoin d'un super débit et d'une grande quantité de données, c'est pour accéder à Facebook une heure par jour et regarder ses mails. Après, les arguments en faveur sont aussi de se dire, ces personnes-là pourront avoir un abonnement moins cher, et les gens qui veulent un débit de meilleure qualité, par exemple, payeront plus cher. Mais bon, ces arguments-là, si on les met à côté de la balance, de se dire, il y a pas mal d'opérateurs qui sont en position de force sur ces réseaux, etc., peuvent facilement peser sur la balance des prix et faire en sorte qu'au bout de quelques années, ça soit les abonnements, de façon générale, les prix augmentent. Voilà, tous ces arguments un peu.
L'autre argument, mais qui touche cette fois-ci pas le grand public, ne serait-il pas aussi l'innovation et de se dire que si demain, moi, je décide de monter un nouveau service Internet, si j'ai pas l'accord de Orange en France et de Bouygues et Free, pour qu'ils me mettent à disposition des tuyaux pour que je fasse passer mon service, si je n'ai pas ces tuyaux-là, de toute façon, je ne peux pas innover. Donc, si je ne peux pas innover, je peux pas monter mon entreprise, entre guillemets. C'est pour. Effectivement, les entrepreneurs, la neutralité du net ne garantit-elle pas une certaine possibilité d'innovation?
C'est sûr. Et le problème de me remettre en question cette neutralité du net, ça sera forcément a priori en faveur de gros acteurs qui ont des moyens financiers, qui ont des moyens de pression, qui ont des lobbies, etc., en défaveur des petits entrepreneurs qui peuvent proposer effectivement des services innovants et qui, eux, ont besoin de cette neutralité pour pouvoir proposer un contenu égal à par rapport à de gros acteurs.
Alors, est-ce que aussi la neutralité du net, est-ce que justement le net ne fait pas partie des communications traditionnelles du siècle dernier et des siècles passés, le courrier? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut mettre en relation le fait que notre facteur, par exemple, n'ouvre pas le courrier pour le lire et pour me dire, ah non, cette facture, il n'en a pas besoin de suite, il la recevra que demain, mais celle-ci, elle est urgente, donc je lui donne. C'est ça aussi la neutralité du net. Bah,
quelque part, si on prend l'exemple avec la Poste, on a déjà des timbres différents, que ce soit en économique ou en rapide. Donc il y a déjà une différenciation. Et Internet, quelque part, il pourrait y avoir dans le futur cette différenciation.
Attention, la différenciation, elle est aussi dans le tarif. C'est-à-dire qu'il y a des opérateurs qui permettent d'avoir un débit de 8 mégas, mais je paye tant par mois. Mais si je veux un débit de 18 mégas, j'ai tant. Mais si je paye un débit de 18 mégas, j'ai 18 mégas tout le temps. La Poste, si je paye un timbre pour que mon colis arrive demain, il arrivera demain.
Oui.
Peu importe ce que j'envoie, bien sûr, il faut que ce soit légal. Hein. Peu importe ce que j'envoie, à qui, comment, pourquoi. Tant que je paye pour avoir le service et qu'ils me le rendent sans faire attention à ce qu'il y a dans la lettre.
Oui, effectivement. Et ta lettre n'est pas regardée par la Poste, effectivement.
Alors.
Juste pour revenir sur ce que vous disiez, effectivement, il y a une volonté très forte de faire un Internet à la carte. Donc, comme tu vas au restaurant, tu vas pouvoir choisir ton menu sur ce que tu vas consommer. Il y a beaucoup de pression qui est faite là-dessus. C'est pas du tout l'image qu'on a d'Internet chez les fournisseurs d'accès libre, par exemple, où on garantit la neutralité du net. Les contenus sur tous les sites sont les mêmes. Tu parlais de Netflix. Il y a l'équivalent en France qui s'appelle Dailymotion aussi, qui est une filiale d'Orange. Donc on s'imagine qu'il y a du favoritisme. Donc, voilà. Et on a eu aussi plein d'histoires où apparemment YouTube était plus lent chez Free que chez d'autres, par exemple, aussi. Donc on sent qu'il y a quand même une volonté de pouvoir favoriser certains contenus par rapport à d'autres. Ça n'a pas été légiféré, c'est ce qu'on attend aussi du Parlement européen, des États-Unis. Enfin, on attend que justement les contenus soient tous égaux sur Internet, ce qui garantit sa neutralité et qui continue à garantir la neutralité, l'innovation aussi.
Alors, juste pour nos auditeurs, donc c'était Alexandre, tu es. Quelle est ta fonction ?
Je m'occupe d'une association qui s'appelle Aquilonet. On est fournisseur d'accès Internet libre.
Et tu es le président, c'est ça qui m'a intéressé. Et tu es le président d'Aquilonet. On en rediscutera tout à l'heure, hein, on reparlera d'Aquilonet, mais c'était merci de ton avis. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ces textes ? Qu'est-ce qu'ils prévoient, entre autres, contre quoi se bat la Quadrature du Net et d'autres associations à travers l'Europe ?
Voilà, je voulais passer justement à cette partie avec la Quadrature du Net, qui appelle aujourd'hui les citoyens à se mobiliser pour justement faire en sorte que cette loi neutralité du Net ne contienne pas certains articles qui sont contre cette neutralité, justement, notamment via leur site qui a été lancé, Save the Internet. Donc il y a le contenu en français dessus, où la Quadrature du Net invite les citoyens à appeler les députés, les contacter, leur demander leur position là-dessus, essayer de leur faire changer leur position vis-à-vis de la neutralité du net. Là, par exemple, je suis sur le site Save the Internet, et on voit la Quadrature qui appelle à s'opposer à un Internet à deux vitesses, justement, ce qu'on parlait tout à l'heure, de faire en sorte que les entreprises privées ne soient pas juges et parties à la fois sur le réseau, et je continue... de permettre un accès ouvert et égal à tous, en fait.
Voilà. Alors moi, comme tu nous as interpellés pour cette émission de radio, j'ai un petit peu regardé, et donc il y a eu j'ai repéré en fait trois points qui sont un peu débattus. Déjà, c'est autoriser, alors la loi, au niveau européen, hein, donc ça se substitue à une loi nationale, la loi prévoit d'autoriser des services spéciaux des opérateurs avec des débits priorisés. Voilà. Sauf que, effectivement, d'après ce que j'ai compris, les services spéciaux sont très mal définis. Est-ce que Facebook ou YouTube entrent dans le cadre de services spéciaux ? Donc, la Quadrature se bat dans ce cas-là. Alors, c'est les articles 2.15 et les articles 23.2 de ce paquet télécom. C'est encore un autre paquet télécom qui est défendu par Nelly Kroes, qui est commissaire européen en charge des affaires numériques et qui nous avait fait la promesse à nous, geek et nerd du monde entier, de préserver, enfin européen du moins, de préserver cette nette neutralité.
C'est pour ça qu'il faut toujours rester entre guillemets aux aguets et regarder ce qui s'y passe et agir. chaque citoyen a un moyen de faire changer les choses à son échelle.
Voilà, sachant que si on regarde la bio un peu de Nelly Croze, c'est avant tout une femme d'affaires, ne l'oublions pas. Et qu'elle a participé, que d'ailleurs elle s'est déjà fait épingler en Commission européenne pour des prises d'intérêts, des conflits d'intérêts qu'il aurait pu avoir entre ses fonctions politiciennes au sein du Parlement européen et les différents mandats dans plusieurs grosses entreprises européennes, on en dénombre plus d'une quarantaine, au sein des conseils d'administration. Donc ouais, le truc c'est de, effectivement c'est beau effectivement de permettre à Orange de privilégier les services qu'ils veulent donner aux abonnés. On rentre toujours dans le cadre, je pense, de la lettre. Hein. Si Orange veut faire un service courrier premium, qu'il le fasse. Ça peut être effectivement dans ce cas-là, les clients peuvent plutôt aller chez Orange parce qu'ils ont un service premium d'envoi de courrier, par exemple. Mais dans ce cas-là, qu'il n'empêche pas les autres. Qu'est-ce qu'il entend par service premium ? Si ce sont les chaînes spécifiques Orange sur la télé par ADSL, ok. Mais s'il considère que Facebook ou YouTube sont des services premium et que dans ce cas-là, il peut, oui ou non, baisser ou augmenter le débit à son gré ou en proposant des options, est-ce que effectivement c'est une atteinte grave à la neutralité du net ?
On peut déjà prendre un exemple qui existe aujourd'hui en France au niveau d'une entorse à la neutralité du net. C'est l'opérateur SFR, il me semble, qui a lancé un forfait où il met en avant YouTube de manière illimitée. C'est déjà en quelque part une entorse à la neutralité du net, par exemple. Et on risque, avec le passage de cette loi, si elle n'est pas modifiée, on risque d'avoir des ententes de plus en plus régulières, on va dire, que ce soit pour l'Internet mobile, l'Internet ADSL, etc. Fibre.
Voilà, donc là, ce que demande plus particulièrement la quadrature du net, c'est que soient mieux définis les services spéciaux et qui se cantonnent aux services qui passent par Internet, mais qui font partie d'un réseau interne aux fournisseurs d'accès Internet. Typiquement, les chaînes de télévision Orange, par exemple, qui sont proposés par Orange et pas par d'autres concurrents et qui font partie du réseau interne à Orange et non pas à l'Internet mondial. Alors ça, c'était la première critique. La deuxième critique, c'est qu'il y a un article, l'article 235, qui prévoit de prévenir les crimes graves ou leur clairement ça pourrait être les atteintes au copyright, ça pourrait être le terrorisme, ça pourrait être toujours le même discours de pédopornographie
qui revient régulièrement, neutralité du net ou non.
Voilà, et là ce que j'en ai vu moi, c'est la question, c'est est-ce qu'on peut confier à une entreprise privée et de façon opaque ce que nous devons voir ou pas sur Internet. Donc avec l'exemple effectivement anglais qui est cuisant, c'est-à-dire que depuis 2 ans maintenant, les Anglais ont un filtre pornographique actif par défaut qu'il faut désactiver soi-même. C'est-à-dire que si vous voulez regarder la pornographie, il faut appeler votre FAI. C'est génial d'avoir une nana au bout du fil, à l'autre bout du monde en plus, parce que comme partout, les centraux téléphoniques sont délocalisés, et de lui demander d'activer le filtre pornographique, enfin de désactiver le filtre pornographique. Filtre pornographique qui a bloqué en 2012 le site de la quadrature du net d'ailleurs. Jérémy, ouais. Il a peut-être montré ses fesses sur le site de la quadrature du net, je sais pas. Donc, est-ce pareil, qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est toujours les mêmes vecteurs d'attaque qu'on retrouve tout le temps, comme tu le disais, la pédopornographie, c'est vraiment le bon moyen pour taper sur la neutralité du net. Sachant que, d'une expérience de tous les hackers, ce qui est fait peut être défait. Des fournisseurs d'accès qui vont te censurer des accès comme ça, tu pourras, via un VPN, trouver des alternatives. Il faut connaître un peu de technique, mais les solutions existent.
Oui, mais après, les solutions, effectivement, elles existent. Mais quand par exemple, le site de la quadrature du net, qui a une grosse partie anglaise, n'est plus accessible par le Kingdom moyen anglais, et il va pas le Modern Mishu en Angleterre, elle va pas se poser la question de savoir si ça marche pas, ça marche pas. Elle va pas se mettre un VPN et s'installer un BSD.
Exactement. Mais c'est faux positif. Dès que tu commences à mettre des mesures restrictives, il y en a forcément. On avait passé un film à l'Utopia qui s'appelait Terms and Conditions, où tu voyais énormément d'exemples de police proactive, en fait, un petit peu comme dans Minority Report, où tu te fais accuser de choses que tu n'as pas encore commises. Et là, en l'occurrence, tu as des gens qui... Alors, il y avait un bon exemple, c'est une personne qui décide de partir aux États-Unis et qui envoie un petit message sur Twitter pour dire « je vais tout faire péter », avec un smiley qui fait un gros bisou. Il arrive aux États-Unis, il a passé la pire journée de sa vie. Il était derrière les barreaux pendant toute la journée, il a été maltraité, etc. Juste pour un tweet.
Un tweet humoristique en plus.
Et donc ça, en fait, t'as énormément de systèmes qui sont automatisés, en plus c'est ça le pire, qui sont automatisés pour filtrer ce genre de messages. Et t'as énormément de faux positifs. Une personne qui va faire une recherche sur comment tuer sa femme, la découper et l'enterrer, la police débarque chez lui. Et en fait, non, il est scénariste d'une série. Ça peut arriver.
Alors, ce sont des trucs qui sont plausibles. Hein. Qui sont arrivés, oui.
C'est arrivé, en fait. C'est ça, le pire.
Alors, le troisième élément, c'est la liberté des utilisateurs finaux. Alors, c'est vraiment, on joue comme dans la plupart des lois sur les mots. Et en fait, c'est la liberté des utilisateurs finaux à choisir ce qui est prioritaire ou non. Et alors, si on change liberté par en le droit de, ça change vraiment tout. Parce que si la liberté des utilisateurs finaux de choisir ce qui est prioritaire ou non, dans ce cas-là, c'est écrit en tout petit en bas, et voilà, on signe et puis on voit pas et c'est trop tard. Alors que si on a la liberté de, on a le pouvoir, le véritable pouvoir de choisir si l'on veut ou non que des services soient prioritaires ou ne soient pas prioritaires. Et là, pareil, on peut rentrer très vite dans des entorses à la liberté d'expression à la nette neutralité. Et l'exemple cuisant, c'est toujours les Anglais. Ils sont très en avance, hein, sur ça. Les Anglais qui payent, je crois, jusqu'à 5 milliards d'euros ou 5 millions d'euros, j'ai plus les chiffres en tête, mais de trop, parce que justement, ils n'ont pas très bien lu les petites conditions qui leur disaient que s'ils voulaient ça et ça, et bien, il fallait en payer en plus, et que c'était, ils avaient effectivement le choix, mais c'était un faux choix, ils n'ont pas la liberté. Ils sont libres, mais ils n'ont pas la liberté. Ils n'ont pas le droit.
Je pense qu'on a déjà la même chose en France, à par rapport à ces conditions, etc., que l'on ne voit pas forcément.
Un exemple ? La question piège.
Non, je vais réagir à un truc que tu as dit juste avant, mais j'ai oublié.
Tu parles trop vite, Yorick.
Ouais, pourtant, je parle trop, oui, c'est
non,
vrai.
Non, je rigole. Non,
C'est pour ça que je fais de la radio, je suis un bavard.
Voilà, j'ai retrouvé. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, en Angleterre, où la pornographie, il faut appeler l'opérateur, etc., pour débloquer le filtre, on y revient toujours au même problème, en fait. Les personnes qui ont les moins de connaissances informatiques, c'est-à-dire la masse a priori d'utilisateurs, se retrouvent bloquées, entre guillemets. Elle n'a pas forcément de solution, la connaissance de solution. Et ce sont les gens au-dessus qui savent utiliser un VPN, un proxy, etc., qui, eux, de toute façon, arriveront à s'en sortir. Donc c'est le problème n'est pas forcément. Enfin, par exemple, si on prend l'exemple d'un terroriste entre guillemets, vraiment un vrai terroriste, a priori saura contourner en utilisant des proxys, des VPN. Donc ces problèmes mis en avant à la Commission européenne n'ont pas vraiment lieu d'être. Les personnes vraiment bien mal intentionnées sauront se défaire de ces lois-là.
Enfin bon, voilà. Et non, j'avais raison. Alors, vous voyez sur le site de. Alors, je cite savetheinternet.eu/fr si vous voulez le texte directement en français. Pour la liberté des utilisateurs finaux, je cite. Exemple. Selon une estimation, les consommateurs britanniques paient à eux seuls environ 5 milliards de livres. En plus, c'est en livres, c'est même pas en euros. De trop, grâce à leur liberté de choisir entre plusieurs services aux options opaques. Il est donc indispensable de remplacer les termes sont libres par ont le droit. Et garantir que le texte n'autorise pas les fournisseurs d'accès à Internet à offrir des services discriminatoires. Voilà. Donc voilà, on prévoit même, en fait, pour quelqu'un, donc je parle de Nelly Croze, pour quelqu'un qui était supposé nous garantir la neutralité du net et faire en sorte que, effectivement, voilà. Alors le rapporteur de ce texte, c'est une Espagnole qui s'appelle Pilar del Castillo Vera. Donc, et qui, ma foi, j'ai un peu regardé sur Internet, elle m'a pas l'air d'être une personne franchement mauvaise. Elle fait des choses bien en Espagne. Elle me paraît en plus bien maîtriser l'outil technologique. Mais pareil, en citant le site de la Quadrature du Net, la rapporteuse Del Castillo ose proposer que le principe de neutralité du net ne garantisse que la non-discrimination des flux de même nature et autorise donc, par exemple, différentes qualités de services pour les flux vidéo et de voix sur IP. Au sein de nombreuses autres enceintes politiques, il est parfaitement compris et accepté que la neutralité du net, au contraire, implique que tous les types de flux soient traités de la même manière, comme spécifié dans le rapport pour avis de la Commission Liberté Civile. Donc on a même le rapporteur du texte qui est contre la neutralité du net.
Alors là, je voudrais en fait faire le lien avec ce qu'on disait par rapport à l'innovation. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ce qui est important, c'est de ne pas parler d'un certain type de service, d'un certain type de flux ou quoi que ce soit. Parce que le problème, c'est que si on commence dans la loi à mettre ce genre d'information, on ne peut plus innover. Parce que ce qui est innovant, justement, par définition, on n'y a pas pensé avant. Donc une loi qui parle de certains types, forcément, va pas inclure ce qu'on va pouvoir inventer plus tard. Et un des principes qu'on veut pousser, nous, c'est de dire trouver des définitions qui sont complètement indépendantes de ce qu'on va pouvoir imaginer plus tard. Donc, par exemple, en s'appuyant sur des concepts comme, je sais pas, un octet, on sait ce que c'est, combien de temps ça met. C'est quelque chose qui va pas changer du jour au lendemain. Et ensuite, les services, ils utilisent un certain nombre d'octets. Pour des vidéos, c'est beaucoup, bien sûr. Pour du son, c'est beaucoup moins. Pour un mail, c'est encore moins. Et donc, en s'appuyant sur ces notions-là plutôt qu'un service, ça permet d'éviter les problèmes.
C'est exactement la vision qu'en a la Quadrature du Net. Et apparemment, la rapporteuse du projet, Del Castillo Vera, ne le voit pas comme ça. Alors juste, je pense qu'il est temps de conclure un peu le sujet.
Juste une chose.
Alexandre, oui.
En fait, j'insiste encore sur l'intérêt d'appeler les élus. C'est très simple, on trouve tout sur le site de la Quadrature. Vous avez même une anti-sèche si vous n'êtes pas très à l'aise au téléphone qui vous explique quoi dire. Ça prend 5 minutes. Tous les outils sont à disposition. On peut même appeler les élus en voix sur e-pay. Et c'est relativement efficace. Un cabinet, quand ils reçoivent 10, 100 appels sur un vote, ça fait réagir.
Alors, qui autour de la table a déjà appelé un élu pour lui parler de la loi ? Alexandre ? Samuel, non ? Thomas ?
Non, je n'ai jamais appelé. Non, je connais un peu le système.
Moi, je vous avoue que je suis plutôt à l'aise à la radio, mais je ne suis pas du tout à l'aise au téléphone. Donc
ce sera pareil.
Alors, raconte-nous, tu as appelé. Raconte-nous, c'est de quel pays était le député que tu as appelé ?
Moi, j'ai fait simple, j'ai choisi quelqu'un qui parlait français. Donc, on a le choix, en plus, des élus à appeler. Il y a en fait un outil qui s'appelle Mémoire politique qui référence tous les élus du Parlement européen. Qui est fait par la Quadrature du Net. On choisit son élu. Il y a le numéro du cabinet qui est donné. On l'appelle. Bon, bien sûr, on ne tombe pas dessus. Par contre, on tombe sur son...
Un assistant parlementaire.
Voilà, son collaborateur. Qui va vous écouter d'une oreille un peu distraite. Il va vous dire que, bien sûr, l'élu n'est pas disponible. Et bon, là, on insiste un peu en disant que c'est très important, qu'on souhaite parler à l'élu de ce texte. On argumente un peu. Et on se propose de rappeler cet assistant pour lui demander le suivi un petit peu de ce qu'on a lancé. Et on le refait. Et effectivement, souvent, ils font plutôt bien leur boulot. Donc c'est plutôt positif, c'est pas inutile. Et je pense que ça a un écho très certain. On l'avait vu avec ACTA, ça avait été relativement efficace.
D'accord. Donc c'est une expérience. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que certains autour de la table s'y mettent. Moi, le premier, hein, je vais essayer de.
Il y a aussi les mails, je crois. Enfin, c'est peut-être moins efficace.
Il paraît que
le téléphone
est bien plus efficace. Voilà. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un essai Girol. Si vous êtes d'accord, autour de la table, on essaye d'appeler chacun un élu.
Girol
appelle ses élus. Par contre, je suis pas sûr qu'on ait le droit d'enregistrer pour pouvoir. Pouvoir effectivement diffuser à la radio après parce que
autorisation mais
voilà que... mais on va éviter mais on se fait un petit brief
je crois que tu peux le faire, tu peux l'enregistrer en demandant gentiment ça
oui
pas de problème.
Donc ouais mais on n'a pas de carte de presse, ça risque d'être bon. On se dit on va éviter mais par contre on fait un petit point à la prochaine radio sur qu'est-ce qu'on dit nos députés et on pourra de toute façon refaire un point sur la loi.
Alors quel député vaut mieux appeler?
Sa circonscription peut-être ou...
Oui, non, c'est un député
ceux
européen.
Ceux qui sont dans la commission, ah oui, ceux qui sont pas dans la commission, parfois c'est complexe
fait,
quoi.
Ils sont tous amenés à voter à un moment donné, je pense. C'est ceux qui vont voter qu'il faut appeler.
Oui, mais ils sont pas tous là. C'est un peu comme le Parlement français, non?
En fait, si... oui, je vois ce que tu veux dire. Mais oui. En fait, si, en règle générale, tu as le parti qui définit la ligne et les gens qui appuient sur le bouton qu'on leur a dit d'appuyer.
Ouais.
Sauf si, justement, tu as une centaine de gus qui commencent à appeler son cabinet, il va se dire, il y a le feu au standard, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce test? Ouais. Il va commencer à s'y intéresser.
Donc au final, peu importe si le gars est concerné ou pas par le sujet, s'il est dans la commission, s'il s'y connaît
tant
ou pas.
Tant qu'il va voter, en fait.
Voilà. D'accord.
Tous les députés en France peuvent voter. Je suppose que c'est la même chose pour au Parlement européen.
Il y a peut-être une dernière chose. Je ne pense pas qu'en fait, tous les députés soient vraiment au fait de cette loi, dans le détail, etc. On leur demande de voter, mais ça s'arrête là. Ils sont, chacun a quelque part sa spécialité. Il y en a qui sont très calés sur ce sujet, d'autres beaucoup moins. Et les appeler, ça permet peut-être... de prendre conscience à ce député qu'il y a une loi ou il y a une importance derrière, il y a des citoyens qui s'en préoccupent, etc.
Alors, juste en dernier, avant de conclure, il faut savoir que le texte a quand même été décrié même au sein même du Parlement européen. Voilà, il a été par... certains députés européens, notamment une commission autour des droits, je ne me souviens plus exactement, mais tout est dit sur le site de la Quadrature du Net, qui voit dans ce texte une menace pour la liberté d'expression, les droits fondamentaux et la net neutrality. Une critique du BEREC, qui est ni plus ni moins que l'organe des régulateurs européens des communications électroniques. C'est un peu, c'est un rassemblement, c'est toutes les ARCEP européennes qui sont réunies au sein de ça. Et il y a aussi une grosse critique du contrôleur européen de la protection des données personnelles. Donc le texte, même au sein même du Parlement, est décrié, c'est dire. Donc n'hésitez pas à appeler, nous on va le faire et on vous propose un autre épisode la semaine prochaine.
À suivre. Le mois prochain.
Le mois prochain, pardon. Ouais, je m'y perds un peu. Toujours toi, Thomas, une petite musique.
Voilà, exactement. Je vous propose de découvrir une seconde musique, Shipping Forecast, toujours de Antonelli.
Oxy Radio, web radio francophone, 100% libre. Issued by the Met Office at 2358 on Wednesday, the 11th of March. Fisher, Dogger, German Bite. Southwesterly for a time, wintry showers, rain later. Fisher, Dogger, German Bite. Luchas.
G-G-G-Roll.
And that's the end of this shipping bulletin.
Et vous êtes de retour sur Radio Girol en direct du Centre d'animation Saint-Pierre à Bordeaux. Nous sommes toujours avec Samuel et Alexandre et nous allons discuter cette fois-ci de À qui le net. Alors, bonsoir à tous les deux. Il faut juste prendre le micro.
Rebonsoir.
Rebonsoir. Alors, vous avez gentiment débattu un petit peu, enfin, donné de l'eau à notre moulin sur la net neutralité et puis le Parlement européen. Maintenant, il est temps de présenter À qui le net. Alors, qu'est-ce que c'est qu'À qui le net ?
Bon, alors j'ai noté quelques chiffres pour en parler d'une manière assez concrète. Ça a été fondé le 7 août 2010. Aujourd'hui, nous avons 51 adhésions à peu près. Donc on fournit de l'accès ADSL entre guillemets libre. Donc on est une association qui est sous la loi 1901, donc à but non lucratif. Cette association a participé à la création d'une fédération qui s'appelle la fédération FFDN. Aujourd'hui, il y a environ 1678 membres. Non, exactement 1678 membres. Il y a 23 fournisseurs d'accès Internet qui sont membres. Il y a à peu près deux fournisseurs d'accès qui arrivent tous les deux mois, à peu près, hein, par mois. Ça continue à croître et à fonctionner. Alors, quel est l'intérêt d'un fournisseur d'accès à Internet libre ? Donc, on défend, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, la neutralité du net. C'est pour faire partie de cette fédération, il faut répondre à une charte aussi qui garantit le mode de fonctionnement associatif. On n'utilise que des logiciels libres, donc c'est pour ça aussi qu'on est, on est content de venir vous voir. On essaye de faire de l'essaimage local pour éviter que tous les accès Internet passent systématiquement par Paris. Aujourd'hui, un abonné à DSL qui discute avec un autre abonné à Bordeaux passe par Paris. Donc bon, c'est un peu dommage.
C'est l'héritage Minitel.
Voilà, ça continue. Et cette fédération FDN a donné aussi naissance à une autre excroissance qui s'appelle ISP Do It Yourself, ISP Fais Ton Propre FAI en fait, où en fait suite à la conférence du 30e anniversaire du Chaos Computer Club qui se fait chaque année, il y a eu une conférence d'un de nos membres et il y a énormément de fournisseurs d'accès Internet en Europe, en Espagne, en Allemagne, qui se sont retrouvés autour du sujet. Donc il y a des bases de données qui sont ouvertes, où on recense un peu tous les fournisseurs d'accès Internet. Il y a tout l'avancée des projets, tout est publié, donc du nombre d'adhérents jusqu'au bilan financier. Et voilà, je vais passer la main à Samuel peut-être.
Oui, ce que je voudrais rajouter, c'est que
Oui. Samuel, tu es le trésorier de.
Voilà, je suis trésorier d'Aquilonet. Et ce que j'apprécie beaucoup dans ce genre d'approche, c'est que on redonne un contact humain en fait à l'accès à Internet, qui est complètement perdu, bien sûr, dans l'aspect commercial qui a été rajouté. Je dis bien rajouté à la fourniture d'accès Internet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début d'Internet en France, dans les années 90, au tout début des années 90, essentiellement, c'était les universités et puis des associations. Et dans les vieux magazines, pour ceux qui ont encore le Linux Mag numéro 1, il y a toute une page avec une pub pour un fournisseur local disant « Oui, on se fait une bouffe à tel endroit, tel week-end ». Et ça s'était complètement perdu en fait par l'arrivée des commerciaux. Et on est en train en fait de le reconstruire petit à petit comme ça. Donc là, ce soir, on a notre assemblée générale d'À qui le net. Mais tous les premiers mardis du mois, on se retrouve à l'Utopia pour discuter de tous les sujets qui touchent plus ou moins Internet. Et puis après, au jour le jour, par rapport à la fourniture d'accès Internet, quand quelqu'un a un problème chez lui de son accès Internet, eh bien, il y a des adhérents qui peuvent venir aider. C'est quelque chose qui se fait vraiment entre gens et en entraide, je dirais. Par rapport à l'aspect local de reconstruction d'Internet, c'est aussi un peu se réapproprier, s'assurer que Internet, ça n'appartient pas que à des entreprises privées. Bon, il y a en France, on a la chance, le réseau Renater qui appartient à l'État essentiellement, mais c'est bien aussi d'avoir une partie associative qui soit à côté pour au moins fournir une alternative. un des intérêts étant que nous, on a envie qu'Internet fonctionne et non pas que ça rapporte des sous. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir dimanche soir. On est passé un peu à côté d'une grosse catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a un data center qui a eu un peu chaud, il y a une clim qui est tombée. Bon, a priori, c'est pas grand-chose. Oui, mais sauf que tel que Internet a été construit en France, à peu près tout passe par ce data center-là. Donc s'il tombe, il n'y a plus grand-chose qui marche sur Internet en France.
Sûreté de fonctionnement, ça, c'est pas bon, alors, ça.
Voilà, c'est pas bon du tout. Mais ce qu'il y a, c'est que bien sûr, quand on est une entreprise, ça a beaucoup de sens de tout même au même endroit. C'est beaucoup plus simple à gérer. Ça coûte beaucoup moins cher, tout le monde se met là, et puis voilà, ça marche très bien. Et le truc, c'est qu'il faut penser au long terme, se dire, oui, mais s'il y a un problème, c'est la catastrophe, ça va coûter des sous, et ce coût-là n'est pas forcément pris en compte.
C'est aussi un héritage de, justement du protocole Minitel où tout était centralisé. Oui.
Alors ça, c'est une grosse star qu'on a quand on regarde les conférences de Benjamin Bayard. Il explique que les gens qui ont fait le téléphone, le Minitel, ils ont l'habitude de faire quelque chose de centralisé. Et dans nos écoles même, on a du mal à se sortir de cette habitude de tout faire par un serveur central et de penser plutôt à quelque chose qui soit de pair à pair, interconnecté, maillé, etc., qui marche beaucoup mieux, c'est sûr.
Alors, une première question qui me vient à l'esprit, c'est que, étant donné que, alors, Aquilonet, mais d'autres fournisseurs d'accès associatifs, justement, sont associatifs, vous pouvez proposer de l'Internet là où il n'y en a pas forcément.
Alors, oui, on peut. Alors, ça coûte. De toute façon, mais après, ce n'est pas forcément un problème. C'est des projets qui peuvent se monter avec les communes. Il suffit de mettre les sous. C'est très différent d'une approche commerciale où j'ai un ami, c'était il y a longtemps, mais qui avait dit à France Télécom, je voudrais que vous m'ameniez de la ligne là. France Télécom a dit, oh non, pas envie. Et voilà, c'est fichu, on peut rien faire. Alors qu'effectivement, dans une association, dès le moment qu'il y a des bénévoles qui ont envie de s'y coller, bah, ok, on se retrousse les manches et c'est parti.
On a des expériences, je crois, de Wi-Fi, de bornes Wi-Fi avec des antennes d'un peu do it yourself qui ont permis d'amener dans certaines communes de l'Internet là où il n'y en avait pas du tout.
Oui, on a un exemple très très fort là-dessus, c'est le village de Sam, qui n'avait pas d'eslam à proximité, donc il n'avait pas d'ADSL possible. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont posé quelques modems dans un village à côté, ils ont mis une grosse antenne directionnelle, ce qui permet donc d'éviter d'avoir à émettre très fort, mais d'avoir quand même un bon débit. Pour faire un pont jusqu'au village qui n'avait donc pas d'accès à DSL. Et ensuite, ils ont redispatché dans le village des accès. Il y a, je ne sais plus, 130, 140 abonnés. Entre-temps, Orange a vu ça. Ils se sont dit, tiens, on va poser un DSLAM. Et puis, personne ne l'a pris parce que ça marche mieux, finalement. Ils ont redécouvert le fait que c'est plus intéressant que ce soit une association locale qui s'occupe de la fourniture.
Ça amène, effectivement, enfin, nous, on comprend ça un peu chez Girol, puisqu'on est au sein même d'un centre social, d'un centre socioculturel, c'est que ça apporte aussi du lien. Une association, même si elle fournit un service Internet, apporte aussi du lien entre ce que tu disais, entre ses abonnés, et permet... Moi, je me rappelle, j'étais chez Périgord Mutualité au milieu des années 80-90, et du coup, on a rencontré le patron, un de mes amis a fait son stage, on bouffait ensemble, on parlait technologie, et c'est quelque chose que l'on peut faire avec vous, en fait.
Oui, il y a LDN, donc nos amis lorrains qui ont fait un certain nombre de t-shirts et un des slogans qu'ils disent, c'est « Moi, je bois des bières avec le président de mon fournisseur d'accès Internet
». Ah, c'est lorrain alors. Vous avez aussi une petite part recherche. Il me semble que Alexandre m'a parlé d'éventuellement de bornes radio pour pouvoir amener Internet aussi en zone blanche que vous êtes en train de tester.
Alors, on a pas mal de projets en cours. C'est qu'on n'est pas non plus très nombreux et puis on est assez occupés par ailleurs. Mais un des projets, justement, c'est de faire du hertzien, donc c'est-à-dire de faire du Internet très haut débit dans Bordeaux et essayer de sortir de Bordeaux pour aller un peu plus loin encore. Très haut débit, ça veut dire des lignes de 100 mégas en directionnel, par exemple. Donc c'est beaucoup plus simple à déployer que de la fibre. C'est ce qui s'est fait massivement à Toulouse. Il y a une association très active, Tetra Neutral, qui travaille sur le sujet, qui travaille maintenant avec la ville et qui fait des zones blanches, justement, comme Saint-Gaudens, qui n'avait pas accès à Internet par du hertzien. Alors, ça pollue moins que le Wi-Fi, puisque ça rayonne moins, étant donné que c'est directionnel. Et c'est surtout très simple à déployer.
Alors, ça se base sur quoi? Sur les canaux UHF qui étaient utilisés avant par la télé hertzienne ou...
Non, c'est du 5 GHz ou du...
D'accord.
En fait, c'est les mêmes ondes que les ondes Wi-Fi, mais simplement, comme c'est directionnel, on n'a pas besoin du même taux d'émission.
Et jusqu'à présent, ce n'est pas bloqué par la législation, donc ça reste libre. Et c'est un des sujets sur la liberté aussi du spectre radio.
Il y a Stryker qui dit « Ça serait bien, on pourrait avoir Internet à Girol. » Mais parce qu'il faut savoir qu'ici, notre connexion est vraiment... pitoyable.
Disons
parfois.
Qu'on est...
Aujourd'hui, on
en
a
fait...
la chance. Hein.
Ah, non, mais en fait, ils ont très bien résumé le problème en fait tout à l'heure. C'est qu'ils sont arrivés, ça marchait hyper bien, et là, on est tous connectés et ça ne marche pas vraiment bien.
Si là, ça marche.
Girol, on est resté au 56K, c'est pour ça.
Non, mais il faut savoir que c'est un centre socio-culturel. Les gars, on partage Internet avec d'autres, notamment le café polyglotte qui est juste en bas. Donc, on fait ce qu'on peut. Tant qu'on peut émettre la radio, moi, je m'en plains pas.
Oui, mais bon.
Alors, pour nos amis bordelais qui veulent souscrire à l'association ou autre, parce qu'on n'est pas obligé d'être bordelais pour faire partie de l'association, comment ça se passe ?
Eh bien, sur le site web, il y a plusieurs liens. Donc, il y a deux manières, en fait, de participer à l'association. On peut bien sûr prendre une ligne ADSL chez nous, mais on peut simplement adhérer à l'association. Et ça, c'est très important, déjà parce que ça nous aide financièrement, mais aussi ça nous permet de montrer qu'on a des adhérents, qu'il y a des gens derrière nous. Et quand on va voir des élus, quand on va porter des projets, même au niveau national, parce que quand on est adhérent de notre association, on devient, en fait, on vient apporter la pierre à la fédération et donc les 1600 membres de la fédération, donc c'est via 23 associations, c'est ça qui fait le poids, qui fait que depuis quelques mois, les instances ministérielles pensent à nous appeler pour dire mais qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Donc ça apporte de la force en fait dans notre action.
Et oui, parce qu'effectivement, comme tu le soulignais, qui dit on fait partie d'Aquilonet, on fait aussi partie de la fédération FDN et du coup tous ensemble on devient un lobby en fait.
Et donc aquilonet.fr, il y a le bouton pour adhérer.
Voilà. Et sinon, on peut venir vous voir tout à l'heure. C'est ouvert, votre AG.
Alors, une assemblée générale, de toute façon, c'est public. Donc, vous pouvez passer. Bon, après, c'est une assemblée générale. Donc, c'est pas forcément très, 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 comment dire, très accessible pour les gens qui connaissent pas l'association. Mais bon, vous pouvez toujours venir pour écouter. Mais sinon, venez le premier mardi du mois à l'Utopia à partir de 21h. On se retrouve à chaque fois pour discuter de tout et n'importe quoi selon les sujets qui sont amenés.
Ça veut dire que nos auditeurs bordelais ou qui passent par là peuvent venir à Girol pour ensuite venir vous voir. Ils ont même le temps d'aller prendre un kebab ou d'aller en terrasse parce qu'il commence à faire beau et puis de boire un café sur la superbe place Camille Julian qui est juste à côté du cinéma Utopia, qui propose aussi une belle terrasse sur laquelle on peut s'asseoir et boire un petit coup avant de venir vous voir.
Exactement.
Bon, mais merci à tous les deux. De toute façon, vous restez avec nous jusqu'à la fin. On n'en a plus pour très longtemps. Je vous propose une petite pause musicale et ensuite on parlera de l'Open Bidoui Camp. Alors, le morceau, tu l'annonces ?
Je te laisse le présenter, c'est toi qui l'as choisi.
Alors, moi j'ai choisi Untitled parce que j'aime beaucoup, en fait, c'est un morceau très court, toujours de Aunt Nelly. Moi, c'est le morceau que j'aime. Il y a des morceaux que j'aime bien, il y a pas mal de morceaux que j'aime pas trop sur cet album, mais celui-là, je l'aime. Et donc, je l'ai casé. Voilà. au forceps, mais j'ai casé.
Mais il est bien aussi.
Untitled.
Your radio station. To every race, to every race, every creed, every color.
Radio 100% jeune, 100% libre.
Et vous êtes de retour avec nous en direct de Bordeaux et toujours avec nos amis d'Aquilonet. On va monter le son des retours parce que voilà. On atteint la dernière ligne droite pardon, de cette émission et on va vous parler de l'Open Bidouille Camp. Alors c'est encore toi Thomas, tu es abonné aujourd'hui.
Alors c'est un peu une annonce assez courte, une sorte de teasing un petit peu. Peut-être que certains d'entre vous ont connu l'Open Bidouille Camp, premier du nom, qui a eu lieu à Bordeaux l'année dernière. Il me semble qu'il y avait des Girondins qui étaient présents déjà à ce premier Open Bidouille Camp.
On était là.
On y était en plein vent. On a failli s'envoler.
Il y avait beaucoup de vent, oui.
Isa a fait réparer son vélo.
Oui, voilà. C'était vachement sympa.
Alors, l'Open Bidouille Camp, pour expliquer un petit peu ce que c'est une sorte de grand forum sur 3 jours. Il me semble que c'était 3 jours aussi l'année dernière.
Un week-end, c'était sur un week-end, ouais, 2 jours.
Alors là, c'est vendredi, fin de journée vendredi, samedi et dimanche, et c'est une sorte de grand forum autour de la bidouille. C'est-à-dire qu'il y a finalement de la réparation de vélo, du jardinage, du bricolage informatique, du hardware, l'éducation aux enfants par rapport aux sciences, etc. C'est très large.
Et c'est open.
Voilà, exactement. Le but, c'est vraiment mettre en avant des cultures alternatives, libres, etc. Alors l'année dernière, pour montrer un peu quelques chiffres et pour vous donner envie d'aller à la prochaine Open Bidouille Camp qui aura lieu les 16, 17 et 18 mai de 2014. L'année dernière, il y a eu plus de 3000 personnes qui sont venues. Il y a eu une install party qui a été faite notamment par la Bulle. Il me semble que Jérôme était là aussi pour donner un coup de main.
Oui, on était là. On a fait de la bidouille informatique, du reclassement de vieux matériel informatique en serveur. Voilà.
L'idée d'ailleurs, c'était, il y aura de nouveau ça cette année, de reprendre un vieil ordinateur qui ne sert plus, qui ne permet plus de faire tourner Windows et d'installer Linux dessus.
On va profiter de la fin du support de Windows XP d'ailleurs pour installer Xubuntu par exemple.
Il y a eu aussi le premier coding goûter bordelais qui a eu lieu justement pendant ce premier Open Bidouille Camp. 3 tables rondes et débats sur des sujets assez variés comme la science, l'informatique, etc. Et 27 thèmes sur des sujets très variés que j'annonçais tout à l'heure. Tout ça en 3 jours.
Il y a eu aussi JM Armo. Il s'en sert volant.
Et c'est
cerf-volant. Et il y a eu surtout une disco soupe avec des fruits beaucoup de fruits qui étaient pas forcément des vrais fruits bio qui étaient mais pas calibrés, pas comme il faut, mais coupés en morceaux et qu'on nous proposait dans des gobelets, c'était génial.
Je dirais que moi, c'est un peu le forum de do it yourself. Vous venez, vous pouvez savoir tout faire, que ce soit en informatique, en jardinage, etc.
Je crois que c'est là aussi qu'on a décidé de faire un studio mobile pour Radio Girol.
Qu'on n'a toujours pas fait.
Qui n'a jamais servi. Mais c'est possible, on peut le faire. C'est-à-dire qu'avec un simple smartphone, on a une application qui nous permet de transmettre notre flux
qui
en direct de n'importe où.
Qui n'est pas libre.
Pour celle qui va venir mois de mai, on se passera à ajouter une crypto-partie. A priori, un coding goûter sera relancé pendant cet Open Bidouille Camp et il devrait y avoir plus de 3000 personnes, je pense.
Voilà. Alors, tu as un lien internet pour nos auditeurs
qui
aillent
voir ça. Oui, tout à fait. C'est obc33.fr, tout simplement. Il y a toutes les informations, le lieu, ce qui est prévu pour le moment, les dates. Voilà. Vous pouvez y aller dessus, vous pouvez vous renseigner. Vous retrouvez d'ailleurs les chiffres et les communiqués de presse de l'année dernière.
Pareil, sympa.
Si vous voulez annoncer, si vous avez des idées d'atelier ou de thème, c'est encore le moment, dépêchez-vous. Mais vous pouvez, il me semble, encore proposer des ateliers juste cette semaine, faites vite. Mais voilà, si vous avez des idées, allez-y, proposez, c'est ouvert.
Voilà, et si vous voulez venir, on peut se débrouiller pour de l'hébergement à Bordeaux. Hein.
Exactement. Voilà. Et pas que Girol, d'ailleurs, il y a d'autres acteurs. Il y a la Bulle, le Labix, parce que ça a lieu à la fabrique Pola, donc le Labix sera fortement représenté. Un autre détail, c'est co-organisé par les Petits Débrouillards Aquitaine, qui co-organisent cet événement, et par les dealers de sciences qui feront pas mal de conférences justement à ce moment-là.
Voilà, alors les Petits Débrouillards Aquitaine, moi je les connais personnellement, c'est un acteur de choix et des gens très très bien. Voilà. Bon, eh bien, sur ce, on va clore notre émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous donc au mois d'avril maintenant. Donc ça sera le 8 avril, le mardi 8 avril, à partir de 19h, toujours libre. On parlera sûrement un peu plus de l'Open Bidouicamp et surtout, on vous fera un retour sur appeler vos députés européens.
Et il y aura toujours la rubrique musique, a priori.
Voilà, a priori. On compte sur toi, Thomas.
Et bien sûr, n'oubliez pas de nous continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, et sur l'IRC.
Voilà, bientôt un compte Movim. Surtout
et
l'IRC.
Sur Movim, oui, ça serait bien.
L'IRC, mais l'INIS, si vous voulez aussi.
Voilà. Bon, bonsoir à tous. Bonsoir. La technique, c'était Antoine, comme d'habitude, qui n'a pas beaucoup parlé cette fois-ci. Il y avait Isa au micro, notre ami Thomas, qui a participé à plein de sujets, mais un peu en retard. Hein, il nous a prévenu un peu tard. Samuel et Alexandre, merci d'être venus. On espère à bientôt au micro de Radio Girol. Bonne soirée à tous. Et merci à Oxy Radio.